Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter. Salut Guillaume.
Salut Charline. L'émission d'hier, c'était compliqué. Ouais. J'en ai pas dormi, quoi.
Ah bon ?
Mais j'ai appelé tout le monde, personne n'est d'accord.
Mais sur quoi ?
Mais tu sais, sur la différence entre un film d'auteur et un film indépendant. Alex, il a semé le doute là-dessus hier.
Vous avez dit festival du film d'auteur, mais c'est festival du film indépendant.
Indépendant.
Et oui,
ouais.
Donc, c'est quoi,
l'auteur est indépendant ou bien simplement l'indépendant, en fait, un truc d'auteur ?
Voilà. Je me souvenais que c'était flou, mais à ce point-là.
Et en plus, Alex, il a posé la question inutile.
J'espère que c'est clair pour les sociétés.
Non, même moi, je suis pas
là,
auditeur.
Vous m'avez embrouillé.
Je n'ai rien pigé.
T'avais déjà rien pigé.
Bah oui,
toi.
Ça s'est pas arrangé, hein.
Non, mais l'auditeur, tu crois qu'il a compris ?
Ah ouais, je suis pas certain. Alex, il a lu un tweet.
Hashtag par Jupiter, Mathieu Pinchina demande existe-t-il un festival du film dépendant ?
Complètement perdu l'auditeur. Comme nous,
mais
quoi.
Mais hein. Comme l'invité, hein.
Ah, Judith Chemla.
Elle a essayé d'expliquer, tu lui as demandé. Puis bon.
Alors allez-y, c'est quoi la différence ?
Ouille.
La différence.
Mais ouais. Bah non, mais bon, en même temps, je sais pas, les films peuvent être d'un style ou d'un autre, il faut qu'ils emportent. Enfin, écoutez.
Ouais. Après, c'était pas évident pour elle non plus. Hein.
Pourquoi c'était pas évident pour elle?
Bah non, parce que.
Quoi bah dis, vas-y.
Oui, bah de, voilà quoi.
Je suis dans ma période prémenstruelle, donc j'avais beaucoup de mal à vous répondre.
Voilà, ouais, ça s'explique. Donc on saura jamais en fait la différence entre un film d'auteur et un film indépendant.
Ah, mais c'est ça qui est beau.
Qu'est-ce qui est beau?
Mais parfois on n'a pas de réponse à une question, puis ça nous permet de prendre de la hauteur, tu vois.
Hauteur ou en même temps de l'indépendance, je dirais.
Hein? Mais non, on t'a bien expliqué que c'était la
mais
même
non,
chose.
Mais non, mais si. c'est la hauteur et indépendance.
Oh, ça fait, hein. Bonjour la France Inter, voici déjà 355 jours que Nicolas Hulot est roulé en boule dans un coin de son bureau, au point que la marmotte des jardins du ministère est tombée amoureuse, il n'est donc plus seul, nous sommes rassurés. Et voici le menu de l'émission qui lui est dédié, hashtag FreeNico. L'Europe fait circuler l'argent, le fromage et les gens, mais surtout les gens qui aiment le fromage et qui ont de l'argent. Et ça s'appelle la Suisse, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant ?
Est-ce que l'Europe, ça ne devrait pas être des calculs sordides d'usuriers, des magouilles de conseils d'administration, des discussions de technocrates à perte de vue sur la taille des bébés poissons et les fromages au lait cru.
Faut-il toujours obéir à l'État ? C'est bientôt le bac philo, les amis. Pour les autres, ça reste une question récurrente. Quand on tient à sa liberté de citoyen, faut-il toujours obéir à l'État ?
Ah non, je refuse.
Les industriels rachètent tout, même les festivals Vivendi, Lagardère, l'Américain, Live Nation mettent la main sur les lives et la musique en plein air. Ils provoquent une envolée des prix, menacent la diversité culturelle. Et que dire de l'attitude rock dans tout ça ?
Il y a une expression américaine en anglais qui dit « Rock and roll is dead ». Le rock and roll est mort. Mais c'est pas vrai. Le rock and roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts.
Tu nous mens.
Exactement, il manque beaucoup à Alex Vizorek.
Bonjour Charlotte Vanhoenacker. Eh bien aujourd'hui, c'est le début de la Coupe du Monde, donc je vous ai apporté une belle équipe. À 17h20, celle qui serait immédiatement mise sous les verrous par Poutine pour désobéissance musicale et propagande de son irrespectueux, c'est vous Mélanie Bauer, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui je parle New Wave et Balkan avec le sex symbole préféré de Charline après Antoine de Caunes, hein, en deuxième position.
Ce serait pas notre invité celui-là. À 17h30, celui qui sur Russie Inter aurait fait une chronique avant de découvrir Goulag FM, où il aurait terminé sa carrière dans d'atroces souffrances, c'est Guillaume Meurice.
Bonjour à tous, moi je me suis intéressé aux aides sociales et pour pas dire de conneries, je suis allé voir des gens qui sont bien renseignés.
J'entendais hier une émission que j'adore parce qu'au moins il dit la vérité, c'est Éric Brunet.
Voilà, comme ça on est sûr de pas entendre de conneries.
Et bien sûr à 17h40, celle qui aurait été une merveilleuse princesse Romanov et qui dans sa robe longue de dentelle aurait laissé couler une larme pouchkinienne en voyant arriver Vladimir Ilitch sur Moscou, c'est vous Clara Dupont-Monod, bonjour.
Bonsoir Alex.
De quoi on va parler ?
On va parler d'un président américain qui a disparu.
Mais qui ça veut dire ?
Je me tourne vers celui grâce auquel l'Open Space va peut-être assister à mon évanouissement en direct.
Elle a déjà dit ça pour Jean-Louis Debré. Prenez-le comme vous voulez.
Vous composez vos premières chansons sur ordinateur et vous rencontrez votre premier succès en Suisse avec le groupe de musique électronique Gros Zone. Votre premier tube en France, c'est 85 avec Two People in a Room sur l'album Les Chansons Bleues. Puis il n'y a plus qu'à égrener. Combien de temps déjeuner en paix sans vouloir te commander ? Amy Gaé, tu ne me dois rien, ni remords, ni regrets. Vous avez rencontré Philippe Djian en 89 et voilà bientôt 30 ans que vous collaborez. Votre dernier album est sorti en 2012 et s'intitule L'Envolée. Vous parcourez les routes, vous êtes sans cesse en tournée, vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes.
Je suis Stéphane Escher.
Ah,
Arrêtez, j'ai rougi.
Alex Vizorek. Par Jupiter.
Bonjour Stéphane Escher.
Bonjour.
C'est d'arriver à la fin de cette heure.
Je suis là, je vais récupérer le dossier.
Respirez, Charline, respirez.
Alors, vous êtes actuellement en tournée.
J'ai rougi vraiment, il y a des caméras.
Oui, moi aussi, c'est très gênant. Actuellement.
Regardez-moi.
En tournée.
Ah non, il y a le.
Oui, oui. Okay, non, je me regarde. Non, parce qu'il faut que je donne le nom de la fanfare avec laquelle vous jouez.
Ça,
vous êtes
difficile.
En tournée. Tractor. Tractorquestar.
Tractorquestar.
Exactement. Oui. Avec Steph Lachef aussi, qui est la fille du groupe. Vous préparez aussi un album avec
ça cette fait longtemps que je prépare des albums.
Mais d'abord la tournée. Alors ma première question, oui. Stéphane Escher, vous jouez avec une fanfare. Ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, une fanfare. Comment est-ce que vous avez croisé cette fanfare? Vous avez dit c'est celle-là et je peux l'emmener en tournée avec moi.
J'ai quitté Berne, ma ville natale, à 16 ans. Je suis pas vraiment retourné jusqu'au moment, j'espère qu'il arrive très très tard pour vous, où vous devrez vous occuper de vos parents, qu'ils ne peuvent plus vivre dans des appartements, les mettre dans des maisons de retraite. Et ça m'a pris le temps de revenir à Berne. Et j'ai remarqué qu'elle m'a vraiment formé cette ville, qu'il y a une espèce de mélancolie qui est revenue. Et je me disais, il y a une histoire à raconter à Berne. Et comme je fais une grande promenade et je croise cette fanfare fou furieux, le tractorquestar qui travaille avec des sons de Balkan, mais qui vient aussi du jazz et tout ça. Et je me disais, c'est peut-être intéressant comme une histoire de... Ils sont 12, une histoire de Grimm. Et l'idée, c'était que tous leurs... Ils sont tous 28, 32 ans. Tous leurs mères étaient une fois un peu liées à moi et que c'est tous mes enfants. Comment on appelle ça quand on a des enfants sans être mariés?
Oh bah, c'est félicitations. Des bâtards. C'est une belle histoire.
C'était l'histoire.
Un scandale, on appelle ça, monsieur.
Et que je reviens à Berne pour faire quelque chose enfin avec mes fils. Et puis ça manquait la fille. C'est un peu Gebrüder Grimm. Ah. C'est Flachef qui arrivait. Et c'est une connerie comme je raconte ici. C'était vraiment la même. Et tout à coup, ils ont dit ah, ça nous sonne comme un bon plan pour passer 2018 avec vous. Ils ont encore dit vous, parce qu'ils ne savaient pas que
attends,
je suis leur père.
Quand vous me dites vous, je le prends pour moi.
Voilà, c'est parti
Stéphane Escher, donc, comment est-ce qu'on chante avec une fanfare? Parce que
c'est difficile.
Il n'y a pas de micro, c'est tambour grosse caisse, c'est les cuivres,
c'est
ça envoie.
C'est très mauvaise idée. Non, honnêtement, j'ai déjà eu une mauvaise idée avant. J'ai travaillé avec des automates. J'ai fait une tournée avec.
Tout seul avec
automates.
Les robots.
C'est
les
plus rentable, il ne faut pas les loger, il ne faut pas les payer.
Les autres, ils boivent, c'est tout.
Ah oui, d'accord. Ouais,
c'est un peu comme les chameaux.
Et donc, on doit trouver comment placer ça.
C'est très difficile, j'ai vraiment longtemps, beaucoup, parce qu'il y a un côté un peu fanfare. C'est quand même très masculin, la militaire, moi, le vieux pacifiste. Et puis, j'ai trouvé cette fille, j'ai dit, tu fais quoi? Ou du hip-hop? J'ai dit, oh là là, le vieux qui fait du hip-hop, ça sentait vraiment mauvais. Mais quand on s'est mis sur scène, il y a une espèce de chimie, une espèce de folie, une espèce de... Une musique assez musculaire qui devient, que j'ai perdu depuis mes débuts, quand on s'est rencontrés, quand je faisais de l'électronique. Et puis, oui, j'ai travaillé pour trouver ma place.
Et on va entendre tout à l'heure, bien sûr, un extrait, et Mélanie Bauer va nous en parler. Une dernière petite question, est-ce qu'une fanfare, ça peut tout jouer? Est-ce que ça peut faire Rage Against the Machine ou Hotel California?
Absolument, oui. C'est
ou Prisonnière, qui est un des titres que vous reprenez en fanfare et qui est pourtant très slow,
très doux,
quoi.
Oui. Ouais. Non, ça marche. Mais j'adore les défis. J'ai une vie assez ennuyeuse. Si je vois un défi, je dis ça c'est impossible, j'y vais. Mm-hmm. Pour rendre les choses possibles, c'est un artiste un peu qui regarde quelque chose, qui dit ça fonctionne pas, essaie de le faire fonctionner.
Charline, c'est très bien joué du kazoo.
Oui, voilà, c'est
le début de la fanfare.
Voilà. Essentiellement le mi bémol qui vient très très bien.
Qui est important dans les cuivres.
Je vous suis, parce qu'en plus j'adore les festivals, et si je peux vous suivre par exemple le 7 juillet à Estival à Belgrade.
Belgrade, c'est un peu plus loin dans l'Est.
Non, c'est pour
sûrement
vous dire...
un autre festival. Mais
non, je veux dire, c'est ce que Belgrade, il y a une ville en Belgique près de Namur. Non. Et donc c'est pour ça que je... Si. Mais c'est Belgrade, bien sûr, 7 juillet, Estival. Donc je ne suis pas prête de partir avec vous parce que je viens de me gourer déjà. Festival gratuit. Ah, c'est pas grave parce que j'irai le 21 juillet au Festival Côte d'Opale à Boulogne-sur-Mer.
C'est en agent de la Belgique, c'est à côté.
Exactement. C'est Stéphane Escher qui est avec nous. Il passe aussi par Granville, ce sera le 29 juillet pour Jazz en B, ou le 31 juillet, Estival Open Air à Estavayer-le-Lac. Ah, ça, c'est en Suisse?
Ouais. Wow. Très bel musée de grenouilles empaillées.
Je vais avec vous.
Merveilleux.
Je vais avec
grand,
vous.
Grand musée.
C'est Stéphane
Adoré
Escher.
Adoré Patuchon.
C'est vraiment Stéphane Escher, hein, le vrai, il est là. Jusqu'à 18h. Bless my heart. Mama Shakes, Hold On sur France Inter, programmation musicale Djoubaka. Tout à l'heure, on entendra Stéphane Echer parce qu'il est là. Et qui va en parler de
D'abord,
Stéphane Echer?
Je vous dis, aux amateurs fans de foot, c'est déjà un zéro pour les Russes. Paf, ils ont tout donné.
Oh.
Oui, je sais que vous en foutez, mais il y a peut-être des gens qui s'intéressent. Je vais quand même vous dire qu'il y a autour de vous. Il y a Mélanie Bauer, il y a Guillaume Meurice et Clara Dupont-Mono.
Bonsoir. Allez, un petit peu d'informations d'abord.
Ça va aussi. The greatest jobs
president that God ever created. The Journal of presque 17h17.
Jamais crétin irresponsable n'a été aussi puissant que moi depuis 2000 ans. I tell
you that. Et on commence par les titres.
Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Donald Trump, mais aussi celui de Guillaume Meurice.
Mais ouais, ils sont nés le même jour. Qu'on ne vienne plus me dire que l'horoscope, c'est de la merde.
Alors que l'Italie menaçait d'annuler la rencontre prévue demain entre Emmanuel Macron et Giuseppe Conte en raison de la crise de l'Aquarius, celle-ci est finalement maintenue.
C'est quand même mieux, les Italiens, ils peuvent pas rater tous les grands rendez-vous après la Coupe du Monde.
Et des brèves?
Allez, les brèves!
Allez. Le jingle.
Et on commence par deux éphémérides.
Oui, c'est aussi aujourd'hui la journée mondiale du donneur de sang.
Oui, alors je précise, pour Bachar el-Assad, c'est la journée mondiale de ceux qui donnent leur sang à eux, pas celui des autres, bien évidemment.
Et en France, c'est la journée nationale contre les maladies orphelines.
Et ça, j'ai décidé de me mobiliser, parce que c'est triste, ces maladies qui n'ont pas de père, pas de mère.
Oui, merci, elle est politique.
Emmanuel Macron rencontrera donc Giuseppe Conte en France.
Oui, bonne nouvelle, il laissera donc rentrer au moins un étranger sur le territoire.
Oui, exactement, Aquarius toujours.
François Hollande critique la gestion française de la crise humanitaire.
Eh ben, il n'y a pas à dire, François Hollande, c'est vraiment un homme d'État. Et je suis sûr qu'il aurait pu faire un excellent président. Pas comme le dernier qu'on a eu, là, qui était nul avec les migrants, qui a renvoyé Leonardo. Hein, c'est pas pour rien qu'on l'a oublié, celui-là, d'ailleurs.
François Hollande, justement, était l'invité hier soir de l'émission Au Tableau.
Ah, moi, j'adore l'émission Au Tableau. Le principe, c'est des enfants dans une classe qui posent des questions. Et la première très bonne question de la future Léa Salamé.
Vous allez devoir, en une minute, nous expliquer en écrivant. Qu'est-ce que c'est que le socialisme?
Ah oui, la question est bonne, surtout la poser à François Hollande. Et la réponse ne l'était pas moins.
Alors, socialisme, c'est d'abord une idée. C'est-à-dire l'idée qu'on peut faire du social.
On peut faire du social, il n'a pas dit on doit faire du social. Et l'autre bonne question plus légère venait du futur Cyril Hanouna.
C'est quoi la chose la plus blessante qu'on vous a dite?
Non. On
vous surnommait Flambi.
Ah oui, mais ça, c'était un ami politique qui m'avait trouvé cette formule.
Qui ça?
C'était Arnaud Montebourg.
Ah.
Mais je ne connais personne qui n'aime pas le Flambi.
Et c'était une excellente réponse. Autre invité hier de l'émission, Kylian Mbappé. Et les enfants sont filous. Question de la future Élise Lucet.
Vous gagnez combien par mois?
Pas mal. Je ne suis pas à plaindre.
Combien environ?
Entre 1 euro et 20 millions.
Voilà, c'est comme la vaisselle d'Emmanuel Macron, entre 50 et 500 000 euros.
Ce qui nous amène à la Coupe du Monde.
On y est, c'est la folie,
Oui, oui, ça va. Alors, moi, je suis plutôt d'accord avec Anne-Sophie Lapix.
La Coupe du Monde de football débute demain et on va pouvoir regarder des millionnaires courir après un ballon.
Oui, elle s'est excusée ce matin, Madame Lapix. Et je peux vous dire, si elle ne l'avait pas fait, je crois que je l'aurais quittée.
Alex, vous n'êtes pas avec Anne-Sophie Lapix.
Et c'est ça. Et c'est pour ça que j'aurais bien facile à la quitter, je vais vous dire.
Ouais. Donc, sportivement, en ce moment, se déroule le premier match entre la Russie et l'Arabie Saoudite.
Et c'est un affrontement qu'on préfère voir en Coupe du Monde plutôt que dans les rues d'Alep.
Allez, des brèves.
Allez, une seule, mais elle est très très bonne. Le courrier Picard, on n'est jamais déçu par le Nord, a titré ivre, il fait l'hélicoptère avec son sexe sur le balcon.
Ah, et l'image choisie par le courrier Picard pour
l'illustrer?
C'est
un petit hélicoptère Playmobil pour enfants et je ne me gâche pas le plaisir de vous lire le début de l'article. Les mots zizicoptère et hélicobite ne sont pas dans le dictionnaire. Les magistrats ont donc employé ce mercredi 13 juin au tribunal d'Amiens. Vous avez fait l'hélicoptère avec votre sexe. Et il a pris 2 mois ferme, il va en voir du barreau.
Allez, Stéphane Echer est en notre compagnie car il est actuellement en tournée avec le Tractor Custard et Steph Lachef avec toute sa fanfare. Et on va écouter tout à l'heure, bien sûr, un morceau. Et puis, Mélanie Bauer va nous en parler. Premier sujet avec vous, Stéphane Echer.
Oui.
L'Europe parvient à se coordonner pour interdire le plastique, sauver les banques et faire circuler les fromages. Mais pas pour accueillir les réfugiés ou contrôler l'évasion fiscale. Oui, là, les nouvelles sont mauvaises d'où qu'elles viennent. Les politiques européennes nous éloignent. Les politiques européennes nous éloignent alors que la culture nous rassemble. Alors on se demande, qu'avons-nous encore de commun, nous les Européens, à part être unis dans le rejet de l'autre quand on renvoie l'Aquarius vers l'Espagne?
C'est vachement
reprise de la chanson d'Arnaud.
Ouais. Belgique rencontre la Suisse pour parler de quelque chose.
Ah ouais.
Compliqué.
C'est compliqué. Ouais. Alors, Stéphane Escher, vous venez d'un pays où on parle allemand, français, italien. Vous vivez en France, vous avez vécu en Belgique, vous avez baigné dans la culture slave. Et vous êtes...
avez un compte au Panama.
vous êtes suisse et vous êtes un symbole du citoyen européen. Donc, on a très envie de vous demander qu'est-ce qu'on a en commun, les Européens, et comment vous voyez l'Europe aujourd'hui, quoi.
Oh, ça commence un peu triste, l'Europe. C'est un viol, non? Et ça commençait, la princesse, elle est partie de... Je ne sais plus comment ça s'appelait en français. Aujourd'hui, c'est Israël, la Syrie et le Liban où elle est partie. Et puis,
on est parti sur la mythologie, là.
C'est la mythologie grecque.
Ah, oui. C'est le taureau.
Zeus qui s'est transformé en taureau, qui l'a tiré vers l'Est.
Mais c'est bien de reprendre par la base.
Moi, je pense. C'est un viol avec un grec qui s'est transformé en taureau. Et puis, la pauvre fille est arrivée, un peu perdue. Et je pense que c'est une très beau image.
Ouais.
C'est comme c'est difficile, mais c'est intéressant pour trouver une histoire qui pourrait nous réunir. Parce qu'il y a une culture incroyable, une histoire malheureusement sanglante.
Oui,
il y a de l'argent continent. Maintenant, vous avez formé de l'argent. Mm-hmm. Est-ce que c'est la bonne solution? Je doute. Moi, je veux vivre nulle part ailleurs que dans ce bordel.
Voilà. Ouais. Dans le bordel européen.
Je veux être proche de l'Italie, de l'Espagne. Ouais. J'habite en Camargue, ça veut dire si vous avez le temps, regardez un peu comme la Suisse fait un bordel comme ça, parce que les langages, les croyances, les richesses sont tout le monde est très riche, mais il y a des plus riches en Suisse.
Ouais.
Et votre problème de l'Europe, parce que Suisse, je dis votre, c'est la taille. La taille et l'idée que ça doit fonctionner économique avant que ça doit fonctionner moralement ou culturel. Voilà. Fini, j'ai tout dit.
Mais c'est vrai, il y a un magazine pro-européen qui s'appelle Torillon.org qui essaye de résumer ce qu'on a en commun culturellement. Déjà, vous l'avez dit, Stéphane Escher, on a souffert des mêmes guerres, donc ça lie déjà beaucoup. Et puis, on a admiré les mêmes courants artistiques, on a lu les mêmes romans, écouté les mêmes symphonies.
Normalement, on fait perdre des méchants allemands.
Stéphane Escher, est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? C'était mon autre question, mais de toute façon, vous avez compris où je voulais en venir. Donc, on va plutôt laisser Mélanie Bauer parler de Tractor Star et Steph la chef.
Exactement. Tout le monde aime Stéphane Escher. Ses petites fautes trop mignonnes quand il parle, il roule les R en français. Et ses hésitations qui lui donnent un air timide, humble, cette forme de pudeur qui humanise une star de la musique en la rendant accessible. Au départ, Stéphane Escher, c'est la New Wave. Et ce qui est intéressant avec la New Wave, c'est qu'elle échappe justement au diktat anglo-saxon du rock et de la pop. On y revient. Hein. C'est qu'elle... Elle utilise l'esthétique russe, communiste, la rigueur allemande. Elle va chercher son inspiration dans les usines et les premiers robots avec ses bruits électroniques qui font aujourd'hui tellement partie de notre quotidien qu'on ne les entend même plus.
Les Français.
Les débuts d'Escher, c'est donc Growzone, un son et surtout une recherche de sonorité via la technologie. Quand on entend ça et qu'on a penché un peu son oreille vers les musiques électroniques des années 60, 70 et 80, de Schaeffer à Kraverk, pardon Charline, name dropping, on comprend facilement la gourmandise geek avec laquelle Stéphane Escher a dû préparer sa tournée seule en scène avec des instruments automates. Mais comme les artistes sont des gens extrêmes, on comprend aussi qu'après une centaine de concerts tout seul en scène, il ait eu envie de partir dans une direction totalement inverse pour son nouveau live. L'inverse, c'est son enfance, ses racines, un aspect de lui qu'on connaît mal, tout simplement car on ne connaît pas du tout l'histoire du peuple semi-nomade, ça c'est selon Wikipédia, le peuple yiddish. Alors oui, on avait bien remarqué ses cheveux longs et son look gypsy, mais je dois avouer que les journalistes ont peu creusé le sujet car c'est une sale histoire de l'histoire.
Nous avons décidé de vaincre le mal du nomadisme à sa racine, chez les enfants, par des mesures éducatives et systématiques.
Pendant près de 50 ans, l'institution Pro Juventute va mener en toute impunité une guerre totale contre des nomades, des yéniches, qui sont pourtant tous de nationalité suisse. Une opération anti-nomade qui va durer jusqu'en 1973.
Et oui, des nomades, des enfants arrachés à leur famille, des familles éclatées pour lesquelles la musique est l'ancrage de la culture. Une culture que Stéphane Escher racontera en participant au documentaire Yenish Sounds.
Wenn man dann über seinen Großvater plötzlich das Wort Jenisch hört.
Eh oui.
On
dirait qu'il parle à l'envers. Hein. Vous dites, on est un peu différent. Ça explique votre personnalité complexe. Bref, à cette lumière, on comprend pourquoi vous aimez autant Sainte-Marie de la Mer. C'est le bastion spirituel camarguais des Gitans. Et c'est d'ailleurs là que vous rencontrez Goran Bregovic, l'ancien ami d'Emir Kusturica. Pardon, Charline, pour le name dropping. Pour participer à l'album Champagne for Gypsy. Premier pas vers le spectacle dont on parle ce soir.
Ich weiß nicht, mir nur sagen so, was möchte, gehören. Ich weiß, ich nicht so kompliziert, doch falls mir.
Oui, car voilà ce que vous faites aujourd'hui après Die Automaten, c'est Die Grosse Family, avec une fanfare pour réarranger vos chansons et une rappeuse dont j'ai découvert le travail grâce à vous et qui est extraordinaire. En spécial guest, la rappeuse beatboxeuse Steph La Chef. Douze musiciens, dont trois batteurs percussionnistes et neuf souffleurs qui viennent de Berne, une fanfare balkanique qui s'appelle Traktor Kestar, une folle énergie percussive qui nous permet de mieux comprendre la richesse de votre son qui part de la new wave et de la pop pour aller chercher finalement tout au fond de votre mémoire vers des territoires snobés par la mondialisation, les Balkans. Une carrière qui puise à chaque nouveau projet un petit peu plus à l'intérieur de vos multiples vous, comme on creuse la terre pour y chercher l'eau de nos rivières souterraines. Elle vient donc de tout au fond de vous, cette nouvelle version de Combien de temps, pas encore masterisée ni même finalisée, mais en cadeau pour vous et même que je parle dessus.
Le plaisir facile, les amours d'un soir, mains de noblesse subtil dans le nœud de foulard. Combien de temps, si on reste face à face sans un mot, sans une gomme qui efface. Combien de temps, et je bois, et je suis sous de toi. L'ombre de mes cris, flèche invisible. L'ombre de mes cris comme une scie. Les mots inutiles, sourire illusoire à vos questions futiles. Je réponds au hasard. Combien de temps, si on reste face à face sans un mot, sans une gomme qui efface. Combien de temps, et je bois, et je suis sous de toi. 6 jours là, j'ai de la peine à vivre loin de toi. J'ai de la folie plein les veines. Je bois et je suis sous de toi. Combien de temps, si on reste face à face sans un mot, sans une gomme qui efface. Combien de temps, et je bois, et je suis sous de toi. Combien de temps, et je bois.
et je suis. Souviens-toi, combien de temps, combien de temps. Si on reste face à face sans amant, sans une dame qui reste. Combien de temps, combien de temps. Et je bois et je suis. Souviens-toi.
Stéphane Echer et sa fanfare, Tractor Questar et Steph la chef. Qu'est-ce qu'on a entendu par exemple comme instrument? Quels sont les instruments qui composent la fanfare?
C'est un sousaphone, c'est comme une grande tuba, très très grand. Et le mec a déjà 2 mètres, je suis tout ridicule sur scène. Il y a 3 tenor horns, comme c'est des trombones un peu. Mm-hmm. 2 saxophones, 3 trompettes, 3 batteurs. Voilà. Et Steph la chef. Super. Qui chante et qui fait des beatbox.
On a entendu combien de temps? Version non masterisée.
Oui, donc pas ça même sera pas encore fini, mixé.
Ouais. 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 Merci beaucoup en tout cas pour ce cadeau. Puis donc ce sera encore mieux quand on l'entendra en album.
J'essaie,
dès que ce sera possible. Et puis vous êtes en tournée, hein, je le rappelle. Et le 2 février, vous serez au Grand Rex.
En grimpant sur le balcon pour faire un slow avec vous.
Ah oui, j'adorerais. Parce que quand je suis allée vous voir à l'ancienne Belgique, vous avez grimpé au balcon. J'étais juste à côté de la fille que vous avez invitée à danser. Ça m'a traumatisée.
Mais voilà.
Alors, je reprends mes esprits. Stéphane Echer avec nous. Il est en tournée dans toute la France, mais aussi en Suisse et même au Luxembourg. Oui, c'est vrai.
Le 26 août. C'est le Luxembourg.
26 août, Cabaret Vert à Charleville-Mézières. C'est le moment de Guillaume Meurice,
oui,
Stéphane Echer.
Non, mais j'adore.
C'est comme ça. C'est contractuel.
Je suis venu un peu ici aussi.
Ah, ça, c'est gentil. Moi, je voulais revenir sur les propos d'Emmanuel Macron sur les aides sociales qui coûtent, donc selon lui, un pognon dingue. Les réactions ont été vachement virulentes, surtout à l'extrême gauche, notamment la maire du 7e arrondissement de Paris, hein, la célèbre punkette à Louboutin, Rachida Dati, qui a réagi sur Twitter. 9 millions de pauvres en France, dont un tiers d'enfants, l'ont-ils choisi? Bam! Faut pas l'emmerder, Rachida. Guevara, hein, comme on l'appelle maintenant dans son quartier. J'y suis donc allé, hein, dans cette ZAD, on peut appeler ça une ZAD, le 7e arrondissement. Beaucoup de campements, de baraques, les Invalides, le Bon Marché. Il y a même un grand Mirador, comme ça qu'on appelle la Tour Eiffel, où des guetteurs surveillent l'éventuelle arrivée de contrôleurs des impôts. Le climat est quand même vachement tendu. Et beaucoup de zadistes, hein, tout comme leur leader spirituel, reprochent à Emmanuel Macron sa fameuse phrase.
Un président qui parle comme ça, c'est assez surprenant.
Qu'est-ce qui vous a choqué dans la phrase alors?
Pognon.
Le mot pognon?
Oui.
Il aurait dû dire argent.
Argent, oui. Les mots qui sont dans le dictionnaire.
Ah bah pognon, c'est dans le dictionnaire.
Ah bon?
Ah ouais.
Ah bah oui, parce qu'on parle du dictionnaire du 7e arrondissement. Hein. Une ZAD qui se respecte à son propre langage. On ne parle pas de pognon. On parle par exemple de l'héritage de feu Charles-Édouard, comte de Mon cul sur la commode et qui s'appelle Rio Kézac. Voilà, le langage est crypté comme dans toute communauté. Alors dans cette ZAD, on trouve évidemment des sociologues, hein, comme dans tous les groupuscules d'extrême gauche, des gens qui ont étudié notamment la question du pourcentage de fraude aux aides sociales.
Alors on dit 14%, mais je pense plutôt à 25%. Je pense qu'il y a beaucoup de fraude, ouais.
Mais alors, comment vous pouvez arriver à ce chiffre?
Ah, c'est un sentiment, c'est tout à fait irraisonné, hein. C'est une impression qu'il y a plus que 14%.
C'est instinctif, vous vous dites.
Voilà, oui.
Vous êtes un peu statisticien en freelance.
Ah non, moi, je fais ça à l'estime, au pif.
Ouais, bah, c'est la meilleure solution, hein. Parce que sinon, on se laisse influencer par les chiffres,
oui,
souvent.
Bah, oui.
Hein, si on vous dit qu'il y a 30% d'allocations non perçues parce que les gens ne savent pas qu'ils y ont droit, eh bah, ben, ça nous influence. Hein, puis on se dit, merde, bah, Laurent Wauquiez, du coup, il a un QI de bulot et ça fait plaisir à personne. Surtout pas aux défenseurs des gastéropodes. Alors, je pense qu'il faut chercher des solutions et les zadistes du 7e en ont.
Quand on donne une aide sociale, il faudrait aussi qu'en échange, les gens nous donnent quelque chose.
Mais il faudrait qu'ils donnent quoi, alors?
Bah, je sais pas, du temps à ceux qui ont besoin de temps, je ne sais pas.
Ah bah ça s'appelle un travail, du coup?
Bah oui.
Ah bah pas con. Ah bah alors là, j'ai envie de dire pas con, on fait quelque chose et en échange, on nous donne de l'argent. Ah, c'est pas idiot, hein. Alors ça peut être plein de trucs, on vend des patates, on fait une chronique sur un livre vaguement en rapport avec l'actu, et en échange, on nous file de la thune, et on appellerait ça, par exemple, un travail. Voilà, dès qu'on se met ensemble, vous voyez, on a des solutions qui arrivent quand même assez rapidement. Alors dans le 7e, on croise aussi une sorte de zadiste qu'on avait un petit peu oublié, ce sont les zadistes fillonistes.
Oui,
ce sont des sortes d'anarchistes, hein, qui s'affranchissent des règles, des bakounines avec moins de barbe et plus de tailleur Chanel. Et ces anarchistes regrettent leur guide. Hein.
Je pense que c'était quelqu'un de tout à fait valable et plus que valable.
Fillon, finalement, avec Pénélope, c'était des aides sociales aussi, un peu.
Des aides sociales?
Bah, c'est-à-dire que, bon, bah, elle avait pas à travailler et puis elle touchait de l'argent.
Non, moi, je persiste à défendre ce couple qui me semblait absolument pas hors la loi.
Voilà. Ah, mais moi aussi, j'ai rien contre le fait de toucher de l'argent sans rien faire.
Ça, c'est de la provocation.
Ah, non, c'est pas mon genre. Si, si, la provocation, si, si. Pas du tout. Pas avec des zadistes. Je ne prendrais pas le risque. Mais c'est vrai que si la Sistana est un cancer de la société, Pénélope, c'est une belle métastase quand même. Hein. Bah si, on peut quand même le dire. Mais on n'est pas dans le jugement. Hein. Je vous rappelle, on n'est pas dans le jugement. On est dans l'étude d'un écosystème en compagnie d'intellectuels. Parce que dans la ZAD du 7e, il y a des Claude Lévi-Strauss, hein, il y a des anthropologues.
Il y a sur le marché, là, sur l'avenue de Saxe, il y a un clodo qui touche le RSA et qui se fait 20 euros à la manche par jour. Il a le RSA, on ne lui demande pas de contrepartie.
Mais c'est ça la solution, alors c'est d'être clochard finalement, ça a l'air de bien rapporter.
En plus de ça, il est étranger en plus.
Oh putain, un étranger qui touche le RSA qui se fait 20 balles par jour, bah ça va, on est tranquille mec. Oh putain, on dit que le problème vient des riches qui les fiscalisent, mais quand on voit ça, ça me donne envie de me lancer dans une carrière de clodo. Je suis désolé, je vous le dis comme je le pense, en plus j'ai déjà la garde-robe. Surtout qu'en plus, il n'y a pas que lui.
Alors, vous allez au bout de la rue, là. Il y a un autre clodo.
Ah, qu'est-ce qu'il fait, celui-là?
Oh, ben, celui-là, alors là, il vit... Alors, naturellement, les gens sont gentils. Il a trop à manger, il revend sa bouffe aux clodos qui sont sous le métro Sèvres-le-Courbe.
Oh, il fait du trafic de sandwich.
Ah, ben, tranquille, le clodo. C'est quoi la prochaine étape? Il monte à Starbucks, peinard, un flunch avec de la villageoise à volonté. Tranquille, le clodo. Évidemment, dans toute Z qui se respecte, il y en a qui remettent quand même en cause l'autorité de la chef Rachida, il faut être tout à fait honnête, et qui trouve qu'elle aurait pas dû dire ça.
Je reconnais qu'elle est assez bien pour l'arrondissement, ah oui, mais là, bon, elle aurait jamais dû s'insurger contre non, ça.
Elle devient de gauche, Rachida Dati, ça se trouve.
Bon, arrêtez, vous dites des sottises, vraiment, on s'en va parce que vous êtes trop bête.
Hein. Voilà, on retrouve quand même dans toute ZAD cette défiance vis-à-vis des médias. Alors, j'ai dû m'éclipser parce que mon intégrité physique était mise en danger. Je suis donc allé me boire un café chez un clodo qui a ouvert une chaîne de brasserie très sympa, brasserie de luxe, entre 16h de manche. Et puis je me disais, voilà, en buvant mon café, qu'heureusement en France, il y a encore des gens qui résistent et qui préfèrent pointer du doigt les pauvres plutôt que l'exil fiscal. Hasta siempre, la défiscalisation.
Merci Guillaume Meurice. Merci pour cette beaucoup. Plongée dans le monde merveilleux du 7e arrondissement. Avant d'entendre Clara Dupont-Monod, on poursuit cette émission avec Stéphane Escher qui est en notre compagnie alors qu'il est actuellement en tournée avec le Tractor Kestar et Steph Lachef. Et voici ce sujet, c'est à l'approche de la terrible épreuve que devra affronter la jeunesse de France, vous savez, le bac philo. Philosophie Magazine pose cette question en guise d'échauffement. Faut-il toujours obéir à l'État? Alors, tant qu'on se pose la question comme ça à la cantonade, c'est qu'on vit normalement encore en démocratie. À l'heure où l'État veut reconquérir certains territoires, comme les ZAD, bien sûr, ou les banlieues, imaginons qu'il y parvienne complètement. Et là...
Je crache plus par terre, je traite plus les mers, je traverse tout quand le petit bonhomme est vert. Depuis que je suis plus une Kaira, j'ai largué mon pitbull, j'ai pécho un chihuahua.
Ah ouais? Ben moi mon caniche s'appelle Scott, et je ramasse toujours quand tout fait sa crotte. Je suis passé du bruit d'épaisse à secouriste, et j'ai troqué mon Scarface pour le choriste.
C'est un extrait du film d'animation Les Lascars d'Emmanuel Klotz et Albert Pereira Lazaro. Film d'animation, tiens justement, nous serons à Annecy demain, en direct. Vas-y, transition. Bref, Stéphane Escher. Voilà cette question posée dans Philosophie Magazine. Et pourquoi a-t-on pensé à vous en voyant cette question? Faut-il toujours obéir à l'État? Je me demandais comment vous vous accommodez de l'État ou des États, parce que vous avez, évidemment, vous êtes une forme de nomade aussi, même si vous êtes un peu sédentarisé en Camargue, en France. Comment est-ce qu'on s'accommode de l'État? Est-ce que il y a des... Cette question, elle vous interpelle? Faut-il toujours obéir à l'État?
Je suis suisse, ça veut dire mon idéologie politique, elle a vraiment grandi quand je suis venu payer, j'attends vos applaudissements, mes impôts en France, parce que normalement, merci beaucoup.
Bravo.
Merci, ça me touche vraiment.
Parce que
c'est pas facile, vos impôts, je trouve c'est très... Mais voilà, normalement les chanteurs, ils font l'opposé, ils sont français, ils vont payer.
Mais pourquoi vous avez fait l'inverse?
Parce que j'aime pas tricher.
Ça vous dépasse du Pont-Monnaie.
Non, c'est pas ça. C'est que si vous étiez resté en Suisse, vous ne trichiez pas, puisque vous êtes citoyen suisse.
Non, moi j'ai un enfant qui utilise les écoles françaises, j'utilise les routes françaises, j'utilise pas vos guerres, par contre. le Mali, ça me fait moins. Et voilà, mais moi je suis habitué. La question de l'État, pour vous, c'est quoi l'État, vite fait?
Ah bah, il retourne la question.
Non,
c'est le sujet. Ça peut être celui qui peut assurer des services, qui peut assurer une forme d'harmonisation.
Si, c'est peut-être l'ensemble des lois qui régissent un territoire.
La Constitution joue quelque chose. Je crois, pour moi, tout en haut, c'est la Constitution. Après, C'est l'État qui doit
le régler. Le fait que justement en Suisse on puisse intervenir régulièrement, enfin en tout cas il y a espèce de
possibilité. C'est ça que je voulais vous dire. La Suisse fait la constitution et là ça veut dire l'État, c'est le peuple, ça veut dire si on fait des conneries, on sait à qui on parlait. Vous par contre, vous faites la chose suivante. Vous prenez votre voix, vous les mettez dans une urne. Déjà deux images un peu bizarres, non? Prendre, donner sa voix, mettre dans une urne, et pendant 5 ans, vous subissez une idée d'aristocratisme inventée par un Suisse, par Rousseau, qui dit non, choisissez le meilleur. Ça, moi, je ne comprends pas du tout votre système. Je trouve aussi, vous êtes trop grand, encore une fois, je ne suis pas anarchiste, mais je trouve que la petite taille est beaucoup plus simple à dire.
Et la monarchie aussi. La monarchie, c'est plus simple.
Et c'est vrai que Rousseau est un penseur que vous aimez beaucoup. Il est cité notamment dans cette question, souvent, du contrat social. Notre liberté est inaliénable. Il est irrationnel d'en faire don à l'État, puisqu'elle fait le prix de notre existence. Rousseau, vous avez eu comme lui une illumination?
Non.
En le rencontrant.
J'ai eu l'arrogance de finir un travail qui n'a jamais fini. J'ai fini un grand travail de Rousseau. Ah oui. C'est un herbier sur l'île de Saint-Pierre. Très arrogant de moi, j'ai fini un herbier. Non, moi je suis suisse et voilà, pour moi la constitution, oui, c'est la chose qu'il faut s'occuper. Mm-hmm. Et chez vous, c'est des élus qui s'occupent de la constitution. Qui font ça peut-être par leur intérêt un petit peu, je ne sais pas, peut-être.
De Gaulle a fait croire aux Français qu'ils avaient besoin d'un homme fort.
Et c'est ça, exactement. Non. Les Français, vous adorez le royalisme. C'est beau,
non,
le
c'est
royalisme.
Quand même.
Non, mais les Français
c'est vrai.
Mais voilà, peut-être pas tous les 5 ans. Votez tous les... Nous, on vote tous les 3-4 mois. Voilà. Ouais, et des choses intéressantes.
On vote en consommant aussi, donc heureusement.
Comme les Italiens qui font des journées où ils n'achètent rien. C'est vraiment...
C'est ça.
Dangereux pour l'État. Ouais.
Et voilà, Stéphane Echard, on vous donne le bac philo avec la complicité,
avec mention.
Et la complicité de Rousseau qui vous inspire énormément. Clara Dupont-Mono, un peu de littérature.
Charline. Oui, parce que Stéphane Echard, vous adorez lire.
C'est ce que... Coup de bol.
Coup de bol. Et vous adorez aussi l'actualité. Oui, c'est ce que vous m'avez confié juste avant l'émission. Donc, l'actualité, c'est aussi Donald Trump, le zébulon du tweet, on en a parlé un peu tout à l'heure, qui a rencontré cette semaine le dictateur de la Corée du Nord.
Qui a fait ses études à Berne.
Berne.
Il a un accent bernois.
Oui, c'est vrai d'ailleurs.
Non, mais c'est
avec
pas une blague.
Ses frères et sœurs. Oui, il était avec ses frères et sœurs dans un internat.
Les plus grands nord-coréens en dehors des non-coréens, ils ne sont pas beaucoup, c'est à Berne.
Ouais. Exact. Ouais. Alors cette rencontre entre le dictateur et Donald Trump, il se trouve que Donald Trump l'a décidé, mais après des revirements, après des grands écarts, après des contorsions, la diplomatie de Trump, c'est un peu le cirque du soleil. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais ça partait dans tous les sens. Alors c'est un peu drôle, mais ça fait aussi un peu peur. Heureusement, Stéphane Echer, la littérature qui connaît bien les hyperactifs à tendance tyrannique a une solution pour Donald Trump qui s'appelle écrire un livre. Il devrait faire comme Bill Clinton qui vient de publier un roman policier.
Très mauvais.
Non, vous allez voir.
j'ai regardé dedans.
Ah ouais, ouais. Vous allez voir. Avec l'écrivain, je vais vous démontrer que non.
Désolé.
Avec l'écrivain James Patterson et ce livre s'appelle Le président a disparu. Alors, vous êtes comme...
Titre est bon.
Oui, vous êtes comme une partie de la critique internationale. Vous trouvez que ce livre ne vaut pas la peine. Puisque le Time Magazine a taclé, je cite, cliché classique du thriller commercial, Le Monde a gloussé un navet et El País a grincé en gros que Clinton voulait juste son shoot de lumière médiatique. Moi, je trouve que, visiblement, ces critiques éminents n'ont jamais goûté au plaisir d'un dimanche soir passé devant un blockbuster type Die Hard en compagnie d'une pizza 4 fromages.
Ah oui.
Oui, parce que, non, mais oui, il y a une vie en dehors de Alain René et de Schopenhauer, et cette vie s'appelle Bruce Willis, ou elle s'appelle Le président a disparu. Moi, je l'ai pris comme ça, Stéphane. Visiblement, vous non, mais vous m'en direz après.
J'ai lu des extraits que je trouvais pas.
Alors, il s'agit quand même d'une intrigue intégrale, mais il faut le prendre en fait comme un bon divertissement, une enquête qui tient en haleine, et le divertissement n'est pas un gros mot.
C'est quand même un président américain, divertissement.
Oui, mais vous allez voir.
Si vous le prenez comme un bouquin de merde, vous allez passer un super moment.
Divertissement,
c'est la clé, en fait, pour bien lire ce livre.
Mais divertissement n'a jamais été quelque chose de merdique, je suis désolée.
Ça plaisante, Clara Dupont-Mono.
Le divertissement n'est pas...
C'est une émission qui se foutent qui... les gueules des gens un peu.
Oui, je suis pas d'accord.
Enfin, un invité qui comprend le concept de cette émission.
Ne lui dites pas, elle s'en rend pas compte, ça fait 4 ans.
Non, je plaide.
Allez-y,
pour
je
le...
vous regarde,
oui,
je vous écoute.
Je vous remercie. Mais je plaide pour le divertissement que certains qui se piquent de légèreté n'hésitent pas à tacler puisqu'ils aspirent à des choses beaucoup plus nobles. C'est l'histoire d'un président à deux doigts d'être destitué, et ça, seul Bill Clinton pouvait l'écrire quand même, et qui, ce président du livre, dans le même temps, doit faire face à un virus informatique qui pourrait détruire toute l'Amérique. Et là, pour le coup, en matière de cyberattaque, Hillary Clinton, donc la femme de Bill, a pu lui passer quelques infos puisque elle-même a été la cible de cyberattaque durant sa campagne face à Donald Trump. Alors, d'accord, c'est écrit sujet, verbe, complément. D'accord. On lit des phrases comme « J'étais plus terrifiée que jamais » ou, je cite, « Seigneur, dit-il, c'est un cauchemar. » Ce qui, stylistiquement, est d'une valeur nulle, je vous l'accorde. Mais enfin, Stéphane est cher.
Dites-moi.
On ne peut pas et diriger un pays et savoir écrire.
La
La poigne et la plume vont rarement ensemble.
Alors, ce qui est bien, c'est qu'il est très épais, on va pouvoir caler la porte
mais
du studio avec.
Mais non, c'est très bien. Il y a des exceptions. L'exception va, et peut-être vous les avez déjà lues, mais va à Léopold Sédar Senghor, président du Sénégal et poète.
D'accord.
Ou alors Vaclav Havel, président tchécoslovaque.
Oui.
À ceci près qu'ils étaient écrivains avant d'être président. Donc, ce qui signifie exactement qu'on peut avoir la plume et ensuite la poigne, mais difficilement l'inverse. Reste que même écrit avec un battoir, moi je l'ai lu ce polar comme une réelle mise à nu d'un président américain. Pourquoi ? Parce qu'on y lit le sommeil d'un président qui, il se trouve, est infesté de cauchemars. On y lit sa gestion des émotions. Par exemple, comment faire son deuil d'un être aimé quand l'emploi du temps qu'on a ne permet jamais de s'attarder sur soi-même et d'entendre sa propre souffrance. On lit le corps d'un président qui est plus à l'aise pour négocier une guerre que de parler intestin avec son médecin. Et on voit en creux se dessiner un idéal présidentiel que Clinton n'a pas atteint. C'est-à-dire que, en fait, je pense qu'il faut toujours lire le livre d'un président comme le portrait de celui qu'il aurait voulu être. Mais l'abeille et l'architecte de François Mitterrand, c'est ça. Ça parle d'un homme contemplatif, lui qui, justement, n'avait plus le temps. Ça parle de la course du vent, de l'odeur des blés, un rêve de campagne précisément perdu avec l'exercice du pouvoir. Et même le livre, pour le coup, tout pourri, La princesse et le président de Giscard d'Estaing, c'était l'aveu d'un énorme fantasme pour Lady Diana, auquel, mais personne ne s'y attendait. C'est une espèce de
même pas elle, hein. Elle en est morte, la pauvre.
Ça, c'est sûr. Et quand le livre de Clinton se termine par un grand discours du président fictif, moi, je ne l'ai pas lu comme un exercice d'auto-promo dont l'Amérique a le secret, mais plutôt, je l'ai entendu comme un grand regret. Est-ce que je vous ai convaincu ?
Non.
Alors,
je crois qu'un président portait moi des idées, écroulées sous des responsables qui ne sont pas des idées et pas le personnage.
Oui, mais il est plus président. Quand il écrit ce livre. Vous voyez ?
Oui, d'accord. Mais on n'a pas de président en Suisse. Ça change chaque année. Ça change chaque année. Et il prend le train le matin. Si vous voulez rencontrer le président suisse, vous savez exactement dans quel train il est. Vous asseyez, vous parlez. Je trouve ça mieux que c'est...
Je vous donne quand même les références pour les auditeurs.
Non, mais j'ai dit que j'ai...
C'est comme elle a fait un pari, aller jusqu'au bout.
Oui.
C'est question d'honneur. Non, ouais. Le président a disparu de Bill Clinton et James Patterson est paru chez Lattès. Mais lisez-le en entier.
D'accord, je vous fais le plaisir.
Et conseillez-le à Philippe Dior aussi, il va kiffer.
Ouais, parce qu'il y a une grande porte qu'il doit bloquer.
Philippe a des portes à bloquer.
Oui, des portes à bloquer.
Ouais, moi, j'ai marché.
Stéphane Escher, on n'aura pas le temps d'aborder ce beau sujet, pourtant, des grands groupes multinationaux qui mettent la main sur les festivals.
C'est pour ça que je suis venu.
C'est pas vrai.
Oui, c'est vrai.
Mais comme on a parlé d'un excellent bouquin sur Bill Clinton un peu plus longtemps.
Non, ça va.
Non, qu'est-ce que vous préférez?
Faites le sujet.
Est-ce qu'on fait un sketch ou est-ce qu'on...
Faites un sketch.
Mais avec vous.
Allez, on va faire
un sketch.
Avec moi, bien sûr.
Parce je ne sais pas lire.
Allez-y. Nous sommes dans le vestiaire de l'équipe de Suisse qui va bientôt jouer.
Ah, ça, je sais lire en allemand.
Ah, oui, non, c'est pour vous. Ça. Qui va bientôt jouer contre le Brésil. Autant vous dire que ce n'est pas gagné pour les Suisses au mondial.
Oui.
L'entraîneur, c'est Charline et nous trois, nous sommes des joueurs de l'équipe suisse.
Allez les gars, on se motive, la Coupe du Monde ça commence maintenant. Hein.
Ja, wunderbar.
Si, la Coupe del Mondo.
Attendez, il n'y en a pas un qui parle français là ?
Nein.
Non. C'est moi.
Ah, ouf.
Ouais. Mais tu sais coach, pour faire une bonne équipe de Suisse, il faut un tiers de Suisse allemand, un tiers de Suisse italien et un tiers de Suisse romand.
Comment est-ce qu'ils font pour se parler sur le terrain alors ?
Mais coach, on n'y va pas pour gagner.
Mais bien sûr que si enfin.
Ah bon ?
Nein, nous sommes déjà assez riches.
Bon, vous savez contre qui on joue ?
Ya, Brésilien.
Exactement, Stéphane, les Brésiliens.
Si, tutti di homosessuali.
Ah non, Alessandro, hein, pas de propos homophobes. Hein,
non, mais il faut pas lui en vouloir, c'est le côté macho du Suisse italien.
Ouais, 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 bon. Et puis profitez-en, vous êtes les seuls Italiens du mondial.
Bah, les Italiens sont à la maison, ils peuvent simuler dans la chambre à coucher.
Silence. Oh, vous êtes bien préparés pour le match?
Ja, natürlich, Holdrio, ich habe viel ovo maltine gegessen.
Mais qu'est-ce qu'il dit
Je crois qu'il dit qu'il a mangé plein d'ovo maltine.
Ah, ça va les impressionner, les Brésiliens, ça.
Si, ballerini, les danseuses.
Attention, Alessandro.
Scusi.
Ok, donc pour le match, on va jouer en 4-4-2.
Ma che 4-4-2, dobbiamo votare.
Alors, il veut organiser un référendum d'initiative populaire contre le 4-4-2.
Bon, alors, ceux qui sont en faveur du 4-3-3, levez la main.
Ma, che merde.
Bah oui, bah t'es tout seul, mon gars, donc on joue en 4-4-2, ok? Les Suisses allemands en défense.
Qu'un problème, normal, ouais, c'est écrit avec A.
Voilà, les Suisses francophones au milieu.
Voilà, ni vraiment à gauche, ni vraiment à droite.
Et les Suisses italiens, vous jouez par terre pour que les Brésiliens se prennent des cartons.
Voilà. Voici, comédia de l'art.
Voilà, exactement, Guillermo. Bon, vous rappelez l'objectif?
Das Spiel gewinnen.
Non, pas gagner le match, vous êtes dingue ou quoi?
Bah, égalité.
Un match nul, et pourquoi pas s'emballer un mars?
Bah, c'est quoi l'objectif, coach?
Encaisser moins de 15 buts. Et je sais que vous pouvez le faire.
Ouais.
Merci Stéphane Echer.
C'est du travail chez vous.
On chôme pas. Je rappelle que vous êtes donc en tournée avec cette magnifique fanfare qui s'appelle Tractorquestar et Steph Lachef, la chef du hip-hop. Vous serez donc notamment à Bellegarde le 7 juillet au Estival. Vous serez au Festival Site en Scène, ce sera le 22 juillet à Jonzac, à Granville le 29 juillet pour Jazzambé, Estival Open Air à Estavayer-le-Lac, ça c'est en Suisse. Vous passez aussi par Crozon, Charleville-Mézières, Verras, c'est en Suisse, le Noirmont aussi, le Luxembourg, et puis le 2 février, le Grand Rex
le petit
à Paris.
Duo de nous deux, petite danse. Mais vous venez,
je
vous invite.
Le deux.
Mais avec Tractor, c'est pas un slow, on danse dans tous les sens.
Même avec la fanfare.
Oui, oui, on
sautille
ensemble.
Moi j'adore votre numéro slow. Mais oui, non, oui, ça va.
Je sais bien que ça vous a posé un problème pendant toute l'émission, mais on est là.
Oui, bon, alors là-dessus, attendez, j'ai perdu mon mot de la fin. C'est Stéphane Echer qui me trouble, oh là là. On sera demain à Annecy avec Dominique. Ah, voilà. Et on laisse le mot de la fin au boss. On laisse le mot de la fin au boss, allez.
Il y a une expression américaine en anglais qui dit. Rock'n'roll is dead. Le rock'n'roll est mort. Mais c'est pas vrai. Le rock'n'roll n'est pas mort pour ceux qui sont rock et qui sont pas morts.